certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle.
Bonjour, bienvenue sur Game Radio pour ce micro-test de Castlevania Lords of Shadow. J'ai eu le plaisir de pouvoir jouer au jeu. On vous avait proposé il y a quelques temps une petite preview sur la démo. Je crois que c'était Jarel et Kalam qui étaient avec moi. Et bien là, moi je vous propose de vous faire un petit point sur le jeu. Alors attendez, voilà, petit passage. Donc je vais rappeler que c'est un jeu qui est donc édité par Konami, qui est développé par Mercury Steam Entertainment, et que Kojima Productions a travaillé aussi sur le titre. De ce que je sais, ils se sont occupés surtout des cinématiques. Au-delà de ça, pour répondre à cette question que j'ai vu poser sur pas mal de forums, est-ce que on retrouve la patte Kojima dans le jeu ? J'ai envie de dire oui, même si l'aspect infiltration est pas très présent, voire pas du tout. Le personnage principal, Gabriel Belmont, que l'on joue dans le jeu, me fait, moi, beaucoup penser à Snake, dans certaines postures, le visage aussi. Imaginez ses cheveux un peu raccourcis, vous lui mettez un bandana, un treillis, un peu de barbe, et j'ai l'impression de voir Snake. Et puis dans certaines de ses attitudes, sa façon de se déplacer, ce côté guerrier solitaire, incompris. Enfin voilà, on retrouve ça, et puis effectivement, dans la couleur générale du jeu, il y a quelque chose de qui pourrait nous faire penser un petit peu à ce que proposent généralement les productions Kojima. Alors là, je suis à un moment clé du jeu avec une petite cinématique. Alors, on va peut-être commencer... Oh là, ça va être difficile de jouer en même temps. J'ai donc énormément de gobelins autour de moi, enfin qui sont en train de se préparer. On va peut-être commencer déjà par les graphismes. La démo nous en mettait plein les yeux, avec une introduction qui est donc le premier niveau du jeu qui se passe de nuit, et donc les décors... je dis juste une chose, on peut... il faut régler la sensibilité du jeu, la luminosité du jeu au tout début, c'est très important, sinon effectivement dans les endroits les plus sombres, notamment le premier niveau, on voit pas grand chose. Donc c'est un conseil, réglez votre luminosité d'écran. Donc les graphismes... Et bien comme l'ensemble du jeu, je dirais qu'ils sont assez inégaux finalement. On a du très très beau, du sublime, des passages merveilleux, que ce soit au niveau du design, des niveaux, l'environnement. Attendez, là il faut que je récupère. Voilà. Paf. Oui, donc, superbe. Que ce soit au niveau des environnements. Oh, et là je crois qu'il y a un boss. Que ce soit au niveau des environnements. Ouais, donc je vous disais que tout ça était assez inégaux. Pourquoi ? Parce qu'on passe de moments vraiment sublimes à d'autres. Alors attendez, là, je vais baisser là. Je me rends compte que j'ai mis que la difficulté est réglée voilà en guerrier, qui est en gros le normal. Je vais mettre en écuyer, qui sera le mode le plus simple pour pouvoir enregistrer. Sinon, je vais pas y arriver. Je vais pas pouvoir avancer dans le jeu. Voilà. Même là, je pense que ça va être difficile. Je suis à un endroit un peu. Je suis pas tout à fait à la fin. Je suis revenu sur. Sur une mission, parce qu'on peut rejouer chaque portion du jeu, je suis revenu en arrière pour cet enregistrement. Voilà, bon, je suis mort. Je vais vous expliquer rapidement ce qui compte. Là où je voulais en venir au sujet des graphismes, c'est assez inégal et c'est un petit peu comme l'ensemble du jeu à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur du sublime et du tellement beau que dès que c'est moins bien, eh ben on le voit. Dès que c'est un peu aliaisé, ça fait mal aux yeux. Dès que les textures sont un petit peu moins fines, notamment certaines cinématiques qui sont un peu moins bien foutu que d'autres, dès que le champ de vision est moins agréable, dès que la caméra est moins bien positionnée, voilà, dès que les effets de lumière sont moins classe, et ben ça tranche tellement que le jeu perd un petit peu de son aura, de son attrait. Et donc au niveau des graphismes, c'est assez inégal. Il n'y a pas que dans les graphismes que c'est inégal comme ça. Rapidement, le scénario aussi assez inégal. Donc sans vous spoiler le truc, Gabriel Belmont veut retrouver, essayer de faire revivre sa femme qui est morte. Donc il part dans une aventure qui l'emmène. Là, de ce côté-là, on voit du pays. Ça, il n'y a pas à dire. On voit des paysages. Et en même temps, voilà, c'est super décousu. C'est-à-dire qu'on se retrouve... donc le passage, l'intro par exemple, je vous raconte un peu le début. Donc l'intro de nuit dans ce village, ensuite on traverse une forêt, on se retrouve dans un marécage et on passe quasiment comme ça du marécage à un lac enneigé en deux temps trois mouvements. Donc en fait le scénario est propice à beaucoup de voyages et en même temps on s'y perd un peu. On a l'impression que c'est une succession de tableaux d'environnement qui permettent de faire intervenir différents monstres, par exemple des araignées géantes dans un niveau un peu automnal, ou alors un titan qui sort d'un lac gelé. Voilà, donc on se retrouve avec pas mal de choses, c'est très très riche, et en même temps, ça crée un sentiment de confusion, je trouve, en tout cas pour ma part, je le vis un peu comme ça. Au moins, l'avantage, c'est qu'on voit du pays. C'est qu'on a un bestiaire fourni et riche, même si les gobelins et les lycanthropes, que vous avez certainement vu dans la démo, reviennent assez régulièrement. Dans l'ensemble, le jeu, voilà, on s'embête pas. Il y a de quoi faire. Alors, la jouabilité, là aussi, on se retrouve face à quelque chose d'assez inégal. Énormément de mouvements, des combos à faire assez exceptionnels. D'ailleurs, on débloque les mouvements au fur et à mesure du jeu. On les achète, donc on les débloque. Et il faut aussi les acheter, on gagne de l'or qui nous permet d'acheter ces mouvements. Ah, je viens encore de mourir. En fait, là, je me retrouve dans une zone où je suis face à un... je vais retourner sur la carte du monde. Je vais aller à un autre endroit. On va aller dans le premier chapitre, hein, tout simplement. Comme ça, au moins, si je vous raconte trop de choses, ce seront pas des choses... Ah oui, petite histoire au milieu. Tant que j'y dis... Indeed, a refuge. Voilà, on va zapper ça. Donc, voilà, un niveau beaucoup plus calme. Quand je vous disais l'inconstance des niveaux, on va se retrouver aussi avec... j'étais sur la jouabilité, c'est difficile de mener cette émission à bien. La jouabilité, pareil, on a des moments de grâce, c'est-à-dire qu'on maîtrise son truc super bien, on a l'impression que c'est fluide. Et à côté de ça, on a des déplacements parfois un petit peu lourds. Dans certaines zones où on doit se déplacer, notamment des zones un peu moins baston, un peu moins beat'em all, eh bien, on sent que la... Les déplacements du personnage sont pas toujours au top. Pas comment l'expliquer. On n'a pas une impression de lourdeur, mais de... C'est un manque de fluidité, peut-être. Je saurais pas l'expliquer. En dehors de cela, c'est vrai que quand on est en pleine baston, qu'on est encerclé d'ennemis, ça se passe relativement bien. On a énormément de combos, de possibilités, avec son grappin, d'ailleurs, qu'on améliore au fur et à mesure du jeu. C'est un petit peu, d'ailleurs, l'essentiel de nos quêtes. Améliorer nos compétences, on gagne de l'or, donc on peut acheter de nouvelles compétences, et de nouvelles compétences associées à son grappin. Alors, quant au niveau, le scénario, justement, donc il y a effectivement les environnements très différents, on passe un peu du coq à l'âne, il y a aussi, dans le gameplay, que le jeu se diversifie sans arrêt, ce qui peut être assez perturbant, c'est qu'on peut passer d'une zone où c'est que de la baston, que du beat'em all, à un niveau où il s'agit par exemple de retrouver, là comme je suis en train de le faire, là, je suis donc dans une forêt vierge, et je dois retrouver 5 runes qui sont cachées dans le niveau. Alors caché, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait on n'a qu'à avancer dans le niveau, il n'y a pas un seul ennemi. C'est assez joli en soi, hein. C'est une forêt vierge qui fait penser à la forêt d'Avatar, d'ailleurs graphiquement c'est pas forcément plus beau. Et on doit retrouver donc des runes, voilà, bah j'en ai une juste là, elles clignotent en fait, hein. Elles sont en surbrillance, donc on les voit assez facilement. On peut buter un peu sur la façon d'y accéder par moment, mais en soi c'est réglé en 2 minutes. On se demande un petit peu l'intérêt de ce niveau, qui est pas compliqué, qui demande pas beaucoup de réflexion et qui, au bout du compte, sert. Donc une fois qu'on a récupéré ces 5 runes, et ben on a le code en gros pour ouvrir une porte au bout du niveau. C'est pas forcément compliqué. Le niveau en soi est joli, mais on se demande ce qu'il fait là. Surtout que juste après, on va se retrouver face à un niveau beaucoup plus complexe avec énormément d'ennemis et pourquoi pas un boss qui va être très très dur à battre, qu'on va avoir beaucoup de mal à battre et on va peut-être y passer une vingtaine de minutes et réessayer le niveau une dizaine, quinzaine de fois avant de réussir à trouver le truc ou d'avoir, je sais pas, le moment de grâce qui va nous permettre de buter cet ennemi-là qui est particulièrement coriace. Donc là aussi, inégal, on passe donc de niveaux où on n'a pas grand-chose à faire à des niveaux extrêmement intenses. Alors ça sert un petit peu à la diversification, ça permet de se reposer après une baston parfois difficile. Mais bon, je sais pas, moi ça m'a donné un sentiment d'inconstance, quoi, dans le gameplay. Donc c'est un petit peu ambigu à ce niveau-là. Je saurais pas dire si c'est un bien ou un mal. je sais que moi ça m'a calmé, surtout que les niveaux sont ça me fait penser d'ailleurs à un autre niveau, d'autres exemples, d'autres niveaux qui sont plus des niveaux réflexion, limite puzzle game. Je pense notamment à un niveau où en fait il s'agit de pas de sauver sa femme qui est déjà morte, mais la femme du héros de Gabriel Belmont est allongée sur il y a une espèce de grande faux qui passe au-dessus d'elle, et en fait il faut arriver jusqu'à elle pour la sauver. Cette faux descend à chaque mouvement qu'on fait faire à trois socles ronds qui tournent et qui permettent d'activer un pont. C'est un peu compliqué à expliquer, ça paraît très compliqué à jouer, et en fait en deux coups ça peut se réaliser. Je crois qu'au troisième essai j'ai trouvé la solution. Donc on se demande quel est l'intérêt réellement de ce genre de phase, d'autant plus que graphiquement c'est un des passages les plus moches du jeu. Après le jeu est sauvé par exemple à l'endroit où je me trouve actuellement. Je suis au bout du niveau, donc il fallait que je récupère ces runes, c'est en pleine forêt vierge. Je marche dans de l'eau, il y a une espèce de rivière assez large avec, je sais pas, 30-40 cm d'eau, donc j'ai les pieds dedans, c'est superbe, les reflets, l'eau est magnifique. Les effets de lumière qui tombent comme ça depuis la cime des arbres, c'est superbe. On a un arbre immense justement en fond, des petites lucioles, des petites lumières qui volettent un petit peu partout. Ce niveau-là, cet endroit-là, est tout simplement, effectivement, superbe. En dehors de ça, on va tomber sur quelque chose juste après qui va être beaucoup moins glorieux. Donc je vous ai parlé des graphismes, rapidement, je vous ai parlé donc de la jouabilité, du scénario, la durée de vie. Et alors là par contre, je vais quitter ce niveau justement pour vous en parler. Là par contre, donc on a accès à une carte du monde, et c'est là qu'on se rend compte que le jeu est très très riche, et qu'il risque d'être très très long, pour peu qu'on se donne un peu de mal, en choisissant pas forcément la difficulté la plus basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a à peu près 12 chapitres, divisés chacun en presque autant de niveaux, donc c'est très très riche. Alors je vous l'ai dit, hein, il y en a qui vont être passés très très vite, d'autres qui vont prendre plus de temps. Donc, à mon avis, c'est un jeu... pour le finir à 100%, dans le sens où il y a des niveaux, par exemple celui-ci, là, le chapitre 1, je n'en suis qu'à 48%, soit 68% sur le premier niveau, 42% sur le quatrième. Enfin, vous voyez, il faut les rejouer, il y a des choses à débloquer, des choses à découvrir, d'autant plus qu'on n'a pas accès à... Là, pour le moment, par exemple, je suis arrivé au bout du jeu, j'ai pas pu encore acheter tous les coups. J'ai pas pu encore acheter tous les coups disponibles, j'ai pas encore pu découvrir tous les secrets du jeu. Donc une rejouabilité certaine. En plus, finalement, l'aventure est assez agréable. Ne déçoit pas. Dans l'ensemble, la jouabilité aussi, rapidement, c'est du God of War-like, avec ses moments de plateforme, ses moments de baston pur. Et donc là, je viens de changer de niveau. c'est pas simple du tout d'enregistrer ce micro-test aujourd'hui. Parce que finalement, c'est un jeu qui se prête pas tellement à l'enregistrement tout en jouant, dans le sens où il faut quand même être vachement vigilant. Là, par exemple, il faut que j'appuie sur Y très très vite pour me débarrasser de l'assaut de l'araignée, araignée géante, qui fait penser à celle que Frodon rencontre dans Le Seigneur des Anneaux. Bref, ça n'a rien à voir, mais juste pour dire qu'on retrouve vraiment une ambiance fantastique, médiévale fantastique, très très réussie, et qui change un petit peu finalement du... Ah ouais, attendez, là, il faut que j'utilise une magie qui va me permettre... de récupérer de la vie au fur et à mesure des coups que je donne à l'adversaire. Là aussi, c'est quelque chose qu'on débloque un peu plus tard dans le jeu. La possibilité, en fait, de récupérer des orbes que lâchent les ennemis, qui permettent ensuite, une fois que notre jauge est pleine, d'enclencher une magie qui permet de récupérer de la vie. C'est un petit peu compliqué. C'est le système qu'ils ont trouvé pour donner un semblant de stratégie au combat. Enfin, de stratégie, c'est peut-être pas le mot. Alors là, il faut que j'appuie sur A très très vite pour me débarrasser. Là, c'est un des passages difficiles. Et encore, elle est toute seule. Ce qui sera pas le cas tout au long du jeu. Voilà, voilà, je l'ai eu. Excusez-moi pour ce moment de baston contre l'araignée. Que disais-je ? Je ne sais plus. On a aussi les poignards, mais ça, vous le savez, puisqu'on les récupère dans la démo, si vous avez joué à la démo. Ah, il y a aussi une autre jauge qui se remplit au fur et à mesure. Si on réussit à toucher des ennemis un certain nombre de fois sans se faire toucher soi-même, sans être blessé, on réussit à remplir une jauge de magie qui complète totalement notre jauge de magie. C'est un peu tordu, effectivement, donc on a accès à plusieurs jauges, la vie, la magie et une troisième jauge de combat qui donne un petit peu de piment à ce gameplay, sans pour autant me sembler essentiel. Ça ne fait que... entre guillemets, compliquer un peu les choses. En même temps, c'est vrai que les différents endroits où on peut récupérer de la vie, donc les fameuses les points qui les endroits qui permettent de se soigner sont assez rares, et en général on crache pas sur un petit peu de vie supplémentaire. Alors là, je suis tout de suite attaqué par des lycanthropes, hein, j'enchaîne araignée lycanthrope. Alors je vais revenir au jeu, Donc je vous le disais, relativement inégal dans l'ensemble. C'est le sentiment que j'ai, moi, des vrais moments de bonheur, des moments où on en prend plein les yeux et où on est complètement dedans, et puis des passages où c'est pas le cas, pour plusieurs raisons. Le gameplay qui suit pas toujours, hein, certains passages sont un peu laborieux, les graphismes qui suivent pas toujours non plus, certains passages sont en dessous du reste, certains monstres un peu redondants. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment un des très bons jeux de cette fin d'année. Un beat'em all de qualité. Je vous le disais aussi, il y a une profusion de coups. On se demande parfois si ça vaut vraiment le coup justement d'avoir mis autant. Dans le sens où on a tendance à répéter toujours les mêmes. Et très vite on se rend compte que bah ça a peu d'intérêt et on a nos habitudes de gameplay. C'est vrai que j'ai débloqué et acheté pas mal de choses que j'utilise jamais. Donc c'est peut-être un petit peu du remplissage, ça a le mérite d'être là et de permettre peut-être un petit peu moins de lassitude quand on joue. Alors attends, non, je suis déjà passé par ici, je me trompe un petit peu. Certains niveaux paraissent assez labyrinthiques, un petit peu plus compliqués que d'autres aussi. Donc je vous le dis, on passe vraiment du super compliqué au pas du tout, c'est assez étrange. Pour conclure, c'est un jeu qui vous offrira de grands moments de plaisir vidéoludique. Et qui par moment, à cause de ces grands moments, ben peut-être vous décevoir ou vous faire vous dire « mince, là ça coince un peu ». En tout cas, moi c'est le sentiment que j'ai eu tout au long de l'aventure, qui est pas non plus inintéressante, au contraire. On est content de retrouver notre Gabriel Belmont, Castlevania, en 3D, en haute définition, sur une console de salon. Ça le fait. En même temps, voilà, peut-être qu'une adaptation moins God of War-like et plus aventure aurait été la bienvenue. Pour répondre aussi à cette question sur la touche Kojima, je l'ai un petit peu fait en introduction. Je dirais qu'on la ressent. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un petit effet qui a été installé, c'est-à-dire que la caméra est tout le temps en mouvement. Si vous arrêtez de bouger votre personnage, vous voyez que l'angle de vue est pas qu'il tremble, mais il est systématiquement un petit peu mouvement à droite à gauche, ce qui donne un sentiment de peut-être de vie, je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très Kojima, justement. L'autre petit détail qui m'y a fait régulièrement penser, et puis bien entendu, on le retrouve énormément dans la plupart des cinématiques, et la façon dont les caméras arrivent sur les personnages dans ces moments-là, la façon dont les cinématiques sont mises en scène, c'est vrai qu'on ressent réellement la Kojima touch dans ces passages-là. Pour le reste, ben c'est de l'action-aventure assez classique, finalement, qui vous fera visiter du pays, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être un peu trop. Une aventure que moi j'ai trouvé légèrement décousue, avec un scénario qui est un peu prétexte à tout autoriser et à tout permettre. Donc justement, on se retrouve à passer du coq à l'âne. Un gameplay en dents de scie. Et malgré cela, c'est un des très bons jeux de cette fin d'année, je le répète. Voilà pour ce micro-test. J'espère que ça vous aidera peut-être à faire un choix et à acheter, pourquoi pas, Castlevania. En tout cas, c'est un jeu que je conseille à tous ceux qui aiment s'acharner sur un jeu parce qu'il y a des moments, des passages vraiment, vraiment très difficiles. D'autant plus difficiles que, comme je l'expliquais, il y a des passages super simples qui demandent limite juste d'avancer tout droit. Et d'autres qui sont d'une difficulté sordide. Donc voilà, ça rejoint d'ailleurs ce que je vous disais tout au long de ce micro-test, un jeu inégal. On a parfois l'impression qu'on a perdu toute la difficulté qui faisait les Castlevania en 2D qu'on connaissait avant. Donc on a des passages hyper simples et puis on a des passages super durs qui nous font nous dire que finalement non, c'est un jeu hardcore gamer. Et ben parfois c'est compliqué de s'y retrouver, on sait pas trop sur quel pied danser entre ces moments plutôt facile et ce moment plutôt difficile. Voilà, je vous laisse là-dessus. Très très bon jeu et très bon Castlevania pour ceux qui passeront le cap. À très bientôt sur Game Radio. Ciao.
Certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle.